Seigneur, encore un immense merci pour la générosité de ton cœur. Toi qui nous as rassemblés dans ce lieu. Merci pour notre privilège de pouvoir entretenir avec toi, gracieusement, une telle intimité, une telle relation, une telle communion, à cause d'une croix qui s'est dressée jadis sur la colline, hors des murs de Jérusalem. Seigneur, merci, merci de tout cœur pour la libre entrée avec hardiesse et simplicité dans ta sainte présence. Nous dépendons maintenant de toi. Nous le désirons en tout cas, de tout cœur. Et nous voulons, Seigneur, que ce soit un désir unanime ici dans cette salle, d'être véritablement à ton écoute. Supplée à toutes nos insuffisances pour que ta volonté s'accomplisse. Par Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Nous ouvrons l'épître de Paul aux Romains. Épître de Paul aux Romains, au chapitre 8. Romains chapitre 8. Et dans Romains 8, nous lirons à partir du verset 31, la seconde partie du verset 31, jusqu'à la fin du chapitre, et de là nous sauterons jusqu'au chapitre 11. Voici donc ce qui est écrit, verset 31, seconde partie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, toutes les pressions extérieures, ou l'angoisse? Ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans tout cela, nous sommes des hyper-conquérants, des hyper-vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Au chapitre 11. À partir du verset 32, chapitre 11, verset 32 jusqu'au chapitre 12, verset 3. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, impénétrables. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous exhorte donc, ou je vous encourage donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, logique. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Chers amis, nous abordons durant cette semaine un thème fondamental dans les Écritures, c'est-à-dire fondamental dans la pensée de Dieu, telle qu'il lui a plu de nous en révéler les éléments indispensables à notre vie ici-bas et à notre marche avec lui ici-bas. Faut-il dire sans s'y appesantir que notre littérature évangélique de langue française souffre cruellement du manque de solides ouvrages qui soient consacrés de manière plus entière à un tel thème. En effet, c'est en parcourant pas mal de livres que, ici et là, vous trouverez des extraits, souvent très courts, parfois quelques chapitres, qui abordent ce sujet de la pensée. Donc, ce que nous voyons durant cette semaine, trop brièvement, hélas, est stratégique, je le crois, pour notre vie ici-bas, notre préparation pour ce qui nous attend là-haut, et pour notre service à la fois dans l'Église et au milieu des hommes qui n'ont pas encore été rencontrés à salut par le Christ vivant. Ce matin, tout comme dans la deuxième étude, cet après-midi à partir de 16h30, nous allons poser des bases doctrinales. Oh, je ne suis pas sans ignorer que la doctrine ne fait pas partie des plats les plus prisés de beaucoup d'églises à l'intérieur du corps de Christ à l'heure actuelle. Et pourtant, il nous faut commencer par là, ne fût-ce que pour nous aligner sur la pédagogie divine dans les Écritures. Je pense en particulier à cette épître capitale, qui est l'épître aux Romains, où nous avons d'abord un exposé magistral en matière de doctrine, et qui débouche ensuite sur des considérations d'ordre pratique, conséquence de la connaissance profonde, nous le dirons, de cette doctrine. Donc nous voulons, dans le cadre de ces quelques études, d'abord poser un fondement, définir des termes, voir certaines grandes lignes qui peuvent être effectivement un rappel pour la plupart d'entre nous, mais qui sont néanmoins nécessaires. Et comme l'apôtre Paul, sans lui arriver à hauteur des chevilles, je ne me lasserai pas de dire et de redire et de répéter, car cela fait partie de toute bonne pédagogie dans la communication, tout court et plus excellemment dans celle de la parole de Dieu. Nous le ferons pour éviter aussi toute confusion dans la suite de nos études, études au cours desquelles nous verrons alors ensemble un certain nombre d'applications pratiques, concrètes, pour notre vie de tous les jours, de manière à ne pas avoir simplement une grosse tête et des petites jambes, à ne pas être rachitique dans certains domaines et déséquilibré, avoir un grand cœur, comme nous aurons l'occasion de le dire, bien centré, une tête bien sur nos épaules et nos pieds bien sur la terre, c'est ce que Dieu veut pour nous ici-bas. J'aimerais, après avoir simplement donné le « là » de nos études, reprendre avec vous les trois premiers versets de Romains au chapitre 12. Et je vous lirai tout d'abord les deux premiers versets de Romains 12 dans la transcription qu'Alfred Kuhn en donne dans cet ouvrage du Nouveau Testament intitulé « Paroles vivantes ». Je dis bien « transcription » parce qu'il y a là aussi aujourd'hui de plus en plus de confusion qui s'installe dans les esprits au fur et à mesure que sortent des versions. Par certains côtés, cela nous réjouit beaucoup, mais cela signifie aussi qu'il faut de temps en temps faire des mises au point pour ne pas confondre certaines choses. La parole vivante n'est pas une version. Parole vivante est une transcription, c'est-à-dire que son auteur, Alfred Kuhn, à partir du texte grec du Nouveau Testament, est allé consulter des dizaines de versions en allemand, en anglais et les quelques-unes qui existaient alors en français, pour voir comment les traducteurs ont rendu chacun dans sa version, ou chaque équipe même de traducteurs dans sa version, l'ensemble du Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce que vous l'avez remarqué, quand on passe d'une version à l'autre, il y a effectivement des nuances, parfois même d'apparentes contradictions. Les nouvelles versions intègrent parfois des éléments qui semblaient même totalement absents de certaines versions. Je ne vais pas entrer dans tous les détails ici, et cela peut être troublant, mais cela est dû à la richesse des langues bibliques. Si vous avez lu, pour certains d'entre vous, mon livre intitulé « Barnabas, tu m'encourages », tout à fait au début du livre, j'évoque le surnom de ce fameux Joseph, Barnabas. Et en l'évoquant, je développe les différents sens du terme derrière lequel se cache ce surnom Barnabas, du terme grec, qui peut avoir à lui tout seul une vingtaine de significations différentes. Et il se trouve que, de surcroît, la plupart de ces significations sont dans le Nouveau Testament. Alors, les traducteurs ont été placés parfois devant des situations un peu problématiques. Laquelle de ces 20 possibilités de traduction allons-nous retenir pour tel ou tel texte? Alors il y a des règles qui président, des règles de contexte. Le contexte va donner une orientation, l'esprit du texte, parfois l'esprit de l'ensemble du livre. Parfois c'est plus difficile parce qu'on peut opter pour deux sens ou trois sens à la fois, ils se valent tous. Alors dans une transcription, l'avantage c'est qu'on va développer le verset. Au lieu de rendre un mot pour un mot, ou un mot pour éventuellement une toute petite locution parce que parfois il n'est pas possible de faire autrement, on va éplucher les mots comme on épluche un oignon, en évitant de pleurer de préférence. Et c'est ce qui fait que vous avez, dans Paroles vivantes, un volume de texte qui est nettement plus important que dans n'importe quelle version. Vous voyez ? Donc le processus est différent, il permet d'aller voir dans le texte les diverses nuances, l'arc-en-ciel de possibilités de traduction pour le rendre le plus proche, le plus accessible, le plus compréhensible à n'importe quel auditeur. Alors je tenais à le préciser, parce que ce n'est pas tout à fait la même approche du tout que le traducteur proprement dit et nos versions. Alors vous allez maintenant mieux comprendre la lecture à partir de cette explication dans Romains 12, versets 1 et 2, dans cette transcription, vous pouvez essayer de suivre dans vos Bibles, mais essayez de suivre aussi ce que je suis en train de lire. « Je vous demande donc, frères, je vous exhorte, ici c'est « je vous demande ». On aurait pu mettre « je vous prie, je vous supplie, je vous encourage ». Précisément parce que nous sommes là en présence du Verbe qui va dans toutes ces directions possibles et dans d'autres encore, n'est-ce pas? Alors là, le choix, je vous demande donc, frère, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soit mise à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et digne d'être agréée. Vous remarquez le développement. Et le développement est lié simplement au fait que on peut entendre le mot corps de diverses manières. Comme le disait Martin Luther, soit comme la peau et les os. Mais ici, Martin Luther dira, oh non, ce n'est pas que la peau et les os, c'est toute la masse de nos personnes. Pourquoi? Parce que dans la mentalité juive, dans le texte, même dans le texte grec à partir du texte hébreu, l'idée c'est, dans le mot corps, c'est qu'il s'agit de la totalité, nous allons y revenir, de notre personne visible, mais aussi ce qui est dedans. Et ce qui sera précisé au verset 2. Ainsi, toute votre vie servira Dieu. C'est là un culte nouveau qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Un culte logique, c'est le mot grec, qu'Alfred Kuhn a simplement rendu en français, il l'a francisé. Et puis, il l'a développé conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformé par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Ça, c'est le sens qui convient bien au terme parfait, parce qu'on peut là aussi mal le comprendre quand on évoque la perfection. Mais dans les Écritures, être parfait, c'est être arrivé à maturité ici-bas. Mais nous sommes toujours en transformation, n'est-ce pas, vers cette ressemblance à l'image de Jésus-Christ. Et puis le verset 3, par contre, je vais vous en donner une traduction littérale. Une traduction, donc. Nous pourrions traduire le texte un peu différemment. Il y a aussi une certaine souplesse vu les mots utilisés, mais cette traduction, qui a d'ailleurs été retenue en note dans ce qu'on appelle la Bible à la colombe, l'ancienne version, il y a maintenant une nouvelle seconde révisée, ça c'est la complexité, mais ce qu'on appelle la Bible à la colombe a une note dans les versions à notes qui le dit si bien, verset 3, la première partie, « Je dis à chacun de vous de ne pas penser orgueilleusement à côté de ce qu'il faut penser, mais de penser en vue d'une pensée saine. » Vous avez là quatre fois le même mot grec. Il y a une sorte de jeu de mots qui est tout à fait directement perceptible dans le texte grec, mais bien sûr, vous vous rendez bien compte que si on rendait cela dans notre lecture habituelle du Nouveau Testament, ce n'est pas très élégant. Donc il vaut mieux éventuellement le mettre en note. Mais c'est intéressant pour nous, dans le cadre d'une telle étude, puisque immédiatement après ce verset 2 qui évoque le renouvellement de notre mentalité, nous allons y revenir, première note concrète, conséquence de ces deux premiers versets, on va vers la manière d'exercer les charismes, les expressions de la grâce, les effets de la grâce de Dieu, de la charisse dans le corps de Christ. Et avant d'entrer dans le détail, vous avez cette note qui tourne autour de la pensée. Je dis à chacun de vous de ne pas penser orgueilleusement à côté de ce qu'il faut penser, mais de penser en vue d'une pensée saine. Si j'avais une cloche entre les mains, je profiterais de cet instant pour en sonner. Elle est là ? Elle est là ? Regardez. Mais c'est... Vous voyez, c'est ce qui est extraordinaire à Eisenflou. On demande quelque chose, ça vient tout seul. Merci. Vous savez que quand on essaye de rendre un son de cloche, on utilise des onomatopées, des expressions assez variées d'une langue à l'autre. C'est comme le cocorico qui devient kikiriki, et puis etc., n'est-ce pas, d'une langue à l'autre. Alors avec les sons de cloche, c'est la même chose. Alors nous avons le ding-ding-dong. Alors vous dites, mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre thème? Eh bien, nous avons au début de cette partie pratique de l'Épître aux Romains, nous avons un carillon. Nous avons un carillon qui nous est inspiré par une petite conjonction, un tout petit mot, et oh, ils sont nombreux, ces petits mots, ces conjonctions. Je me souviens quand j'étais dans les premières classes d'école primaire, on nous apprenait à réciter les conjonctions de coordination par cœur. Mais où est donc Ornica ? Ça vous reste toute la vie. Alors en voilà une. Mais où est donc ? Donc. Donc. Il est important ce donc. Il est comme un témoin au fil des premiers chapitres de l'Épître aux Romains, des relais. Ce don réapparaît pour montrer que dans la pensée de Dieu transmise à l'apôtre Paul, qui nous la donne à son tour, il y a une cohérence. Il y a des lois de cause à effet, il y a des enchaînements, n'est-ce pas? Et ici, ce donc est un carillon qui sonne à toute volée pour introduire la partie pratique de l'Épître aux Romains. Et au lieu de dire « ding, ding, don », on utilisera les onomatopées, ces appellations toutes particulières, je dirais, propres à ma composition. Je dirais simplement « don, donc, don ». Ding, ding, don, don, donc, don. Parce que nous avons dans les 11 premiers chapitres le don merveilleux que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ. Il est dit d'ailleurs au chapitre 11, verset 29, les charismes, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. À cause du don de Dieu. Et là, il faudrait revenir sur toute la construction de Romains 1 à 12, avec, après son introduction, des moments extrêmement difficiles à passer dans les turbulences terribles de la condamnation liée au péché de l'humanité tout entière, de quelque bord qu'elle soit. Et puis heureusement, après un verdict final que nous lirons tout à l'heure, on commence à respirer, avec le donc qui conduit à ce que Dieu appelle dans les Écritures la justification. Vous pouvez être innocenté, acquitté, déclaré juste. Vous pouvez échapper à cette condamnation qui pèse sur vous parce que Christ a pris sur lui cette condamnation pour vous revêtir du vêtement de sa justice impeccable. Il ne tient qu'à vous d'être innocenté en venant plaider coupable au pied de la croix, pour recevoir ce plein, ce complet pardon, ce pardon définitif de la part de Dieu, qui devient alors d'une manière toute particulière votre Père en Jésus-Christ. Et puis après nous avoir présenté ce que Dieu en Jésus-Christ a fait pour nous à cause de notre condamnation, à partir du chapitre 6, Dieu nous dit ce que il accomplit en nous à cause de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection de Jésus-Christ, de sa glorification, du fait qu'il est maintenant dans les cieux aux côtés du Père, et qu'il continue à exercer un ministère extraordinaire en notre faveur. La sanctification, ce processus qui ne peut démarrer que sur la base de notre justification, c'est parce que j'ai été acquitté, innocenté, que j'ai aussi été sanctifié définitivement par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est une chose acquise, c'est ma position. C'est ainsi que Dieu me voit. Mais cette position juridique, en quelque sorte, doit maintenant se traduire dans ma vie quotidienne. Et je vais donc devoir croître dans cette dynamique constante d'une sanctification progressive, mais bien attachée au socle de la justification, de ce démarrage dans la sanctification acquise une fois pour toutes. Ce que ce que Jésus-Christ, par le ministère du Saint-Esprit, fait en nous de manière permanente pour nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Et puis, Romains 8, c'est cette projection vers l'avenir. La glorification, c'est le toit posé sur l'édifice. Il y a eu les fondations, les murs sont montés avec leurs fenêtres et leurs portes, et maintenant un magnifique toit pour couronner le tout, n'est-ce pas? C'est finalement le salut dans sa perspective ultime, lorsqu'au-delà des souffrances du temps présent, avec tous ces soupirs, soupirs de la création, soupirs de l'Église, soupirs même du Saint-Esprit. Un jour, bientôt, très bientôt, nous connaîtrons cette rédemption, ce salut total, entier, parfait, dans la résurrection corporelle et le face-à-face permanent avec notre Dieu et notre Sauveur parfait. Condamnation, justification, sanctification, glorification. Ce qu'on appelle la philosophie du salut dans les Écritures, tellement merveilleusement résumée par cet épître aux Romains, qui a été à la base du bouleversement de tant et tant d'hommes et de femmes de Dieu, que Dieu a ensuite utilisé de manière parfois extraordinaire au cours de grands réveils. Cet épître aux Romains lu une à deux fois par semaine, régulièrement, par des hommes de Dieu. Je pense à Chrysostomos, Saint Jean Chrysostome, un de ces derniers qu'on appelle père de l'Église. Bouche d'or, ce prédicateur célèbre, mais qui aimait tellement cet épître aux Romains qu'il la lisait régulièrement, semaine après semaine, n'est-ce pas? Puis vous avez ces chapitres 9 à 11 de Romains qui entre dans ce qu'on appelle la philosophie de l'histoire. Mais l'histoire vue sous un angle particulier, et ça c'est le propre des Écritures. L'histoire vue à partir d'Israël. Israël dans son passé, chapitre 9. Dans son présent, chapitre 10. Dans son avenir, chapitre 11. Tout ce mystère extraordinaire d'Israël. Israël choisi, élu, sur la seule base de l'amour de Dieu. Israël mis à l'écart, pour un temps, à cause de son refus du Sauveur. Mais Israël réintégré en tant que nation, ce qui est encore devant nous, dans le bref temps qui va encore s'écouler, jusqu'à ce que tout ici-bas soit réglé. Et puis on arrive à ce début du chapitre 12, et vous comprenez pourquoi je vous ai dit cela. J'hésite toujours dans les études, est-ce que je dois dire cela ou pas, mais il me semble que c'était tellement important que nous ayons la toile de fond des 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains pour mieux comprendre la valeur de ce petit mot. Donc, à cause de ce glorieux salut, à cause de cette histoire extraordinaire d'Israël, à cause du surgissement de l'Église dans tout cela, tel qu'il apparaît notamment au chapitre 11, l'Épître aux Romains, « Ô profondeur de la richesse, la sagesse, la science de Dieu, lisions-nous tout à l'heure, que ses jugements sont insondables, que ses voies sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ? C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses, à lui, la gloire dans tous les siècles. Je vous exhorte donc à cause de cela, n'est-ce pas ? C'est notre réponse. Je me donne et je vais exercer les charismes que le Saint-Esprit m'accorde, que Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit en réalité m'accorde dans sa bienveillance, dans sa souveraineté parfaite. Je vais me donner entièrement, je m'offre entièrement en sacrifice saint, agréable à Dieu, raisonnable, parce qu'il s'est donné. Don. Ce qui a fait dire à quelqu'un, le chrétien est un donc. Le chrétien est un donc. Dans Romains 12, 1 et 2, nous avons la condition fondamentale d'une conduite à la gloire du Seigneur dans l'Église et dans le monde. Le verset 1 évoque bien entendu en particulier la dimension extérieure, la dimension visible de notre consécration, l'offrande du corps. Il s'agit d'un acte de consécration de notre personne tout entière, sans réserve, une fois pour toutes. Ça, c'est une des particularités aussi qui n'apparaît pas clairement ici dans le texte français, mais elle apparaît ailleurs dans nos textes. Mais nous pourrions rendre, n'est-ce pas, je vous exhorte, je vous encourage donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir une fois pour toutes vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Nous sommes ici en présence d'un infinitif qui a, disons, une forme particulière qui n'existe pas en français. C'est l'infinitif du fait historique, de l'histoire. Il m'est souvent arrivé d'expliquer les différences avec la langue française par cette toute petite illustration. Imaginons que je dise à mon frère, « Cher frère, frappe-moi. » Rassurez-vous, je ne vais pas le lui demander. Merci. C'est un sondage. Frappe-moi. En français, frappe-moi, c'est très vague. Bon, bien sûr, c'est percutant. Mais suivant sa gentillesse ou sa méchanceté, il peut s'arrêter au premier coup ou me frapper à mort. En grec, on a la nuance. Parce qu'on ne va pas le conjuguer en quelque sorte ou l'utiliser au même infinitif. Si j'utilise cette injonction à l'aoriste, qui est un temps particulier qui n'existe pas dans notre langue française, il a intérêt à s'arrêter tout de suite. Par contre, si mon infinitif est un infinitif présent, ça c'est le temps de la continuité, le temps qui s'écoule, alors il va pouvoir en profiter. Voyez la différence. Et cette différence est très importante dans ce texte. Parce que Dieu nous dit en quelque sorte qu'une fois pour toutes, sans calcul, sans réserve, sans désir de retour en arrière, faites-le, mais mettez tout sur l'autel, puisqu'il ne s'est pas arrêté à mi-chemin, puisque lui a tout mis sur l'autel. N'ayez pas de réticence, n'ayez pas de réserve, ne gardez pas des munitions en réserve pour vous, n'est-ce pas? Mettez une fois pour toutes tout sur l'autel. Seigneur, je te consacre ma vie jusqu'au 15 août prochain. Parce que le 15 août, j'ai décidé de partir en Israël. J'ai réussi à obtenir avec beaucoup de vigueur ta bénédiction. Je ne suis pas sûr que ce soit la tienne d'ailleurs. Mais enfin, j'ai fait ce qu'il fallait pour que tu dises oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Que de calculs dans nos vies au niveau de la consécration. Que de mais, que de si. Alors Paul dit non, 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 non. Après tout ce que je viens de vous écrire, dit-il aux Romains, allez-y à fond. Donnez-vous complètement. Plus de réserve, lâchez les freins. C'est important parce qu'ensuite, à partir du verset 2, vous pouvez compter, si mes souvenirs sont exacts, les 36 verbes qui suivent ce verset premier, donc à partir du verset 2, ils sont tous au présent. C'est-à-dire que tout le reste s'inscrit ensuite dans une culture, dans une continuité, dans une permanence. Et c'est ce qui est particulièrement intéressant au verset 2, où, après avoir évoqué de manière globale cette offrande du corps, d'ailleurs au pluriel, pour montrer que le disciple de Jésus-Christ n'est pas un individu isolé, le christianisme n'a rien d'une religion solitaire, n'est-ce pas ? Dieu voudrait que ce soit l'Église, des hommes et des femmes côte à côte, qui chacun pour sa part, mais tous ensemble, vivent cette entière consécration. Et sur cette base-là, d'ailleurs, dans le texte grec, entre le verset 1er et le verset 2, vous avez une autre conjonction de coordination. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ceci, c'est un processus. C'est une expérience spirituelle. Il y a là la dimension intérieure liée à notre consécration, un processus qui doit se poursuivre sans cesse, une métamorphose continuelle, c'est un impératif présent, donc de manière continue, une métamorphose, c'est le terme grec, on ne peut pas faire autrement que de dire métamorphose. C'est une transformation qui s'opère de l'intérieur. Lorsque Jésus est monté, était sur la montagne de la transfiguration, c'est le même terme qui est utilisé pour évoquer le fait que ce qui s'est produit là, sur cette montagne, était un processus extrêmement profond. C'était pas simplement une sorte de revêtement de surface sur la personne de Jésus-Christ, mais quelque chose qui touchait à son être intérieur. C'était sa personne même dans son être intérieur qui était touchée. Révolution, nous dirons, dans la tête, puisqu'il est question de ce petit mot « intelligence ». Alors là aussi, quand on veut creuser un peu, vous avez un tout petit mot ici qui est traduit par intelligence, mais peut-être que dans vos Bibles, il n'est pas traduit de cette manière. C'est un mot très fort, très court aussi, nous. Et ce petit mot, je vous en donne plusieurs traductions, avec d'ailleurs les versions correspondantes, mais je ne vais pas vous donner la totalité. Il est parfois traduit par intelligence, nous venons de le voir, par entendement, par jugement, par esprit, par pensée au pluriel ou au singulier. Et bien sûr, nous l'avons vu dans la transcription parole vivante, il est traduit par mentalité. Terme riche, terme très riche, la faculté de penser, la faculté de percevoir, de comprendre, de raisonner, de ressentir, de juger, d'évaluer, de décider. Tout cela est compris dans ce petit mot. Et bien entendu, quand on utilise de tels mots, on s'oriente irrémédiablement vers la tête, notre tête. Et il est ici question d'une révolution dans la tête avec ses multiples répercussions sur le corps. Formez pas au siècle présent, Et là, le terme utilisé a donné, par exemple, en français, le mot schème ou le mot schéma. C'est un terme qui évoque simplement l'extérieur, n'est-ce pas ? La forme, sans pour autant que l'intérieur ait subi de nouvelles orientations et de grands changements. N'oubliez pas de mettre vos têtes, vos cerveaux sur l'autel, jour après jour. N'oubliez pas, parce que si vous vous consacrez, si vous offrez vos corps au Seigneur, mais que vous refusez cette révolution dans la tête, même les meilleures offrandes pratiques, concrètes, de vos mains, de vos yeux, de vos oreilles, de vos pieds, risquent de vous faire aller à la catastrophe. On ne peut pas dissocier le verset premier du verset 2. J'ai lu, il y a déjà pas mal de temps de cela, un article très intéressant et très fouillé consacré à la vie dans le château de Versailles. Et dans cet article, où l'auteur évoque l'époque de Louis XIV, il écrit à un moment donné ceci. Suivant à la lettre les recommandations des traités de civilité, se laver les mains tous les jours, rarement les pieds, et jamais la tête, siège de la pensée. C'est intéressant, hein ? Voilà la conception qu'avait Louis XIV et sa cour de la toilette. Jamais se laver la tête, siège de la pensée. Le roi et les courtisans prisent fort peu les ablutions. Si les cheveux sont affreusement sales et nécessitent l'usage de petites boîtes à poux que l'on dissimule sous la chevelure avec un peu de sang comme appât, les têtes et les corps sont terriblement parfumés. On glisse des petits sachets de musc et d'ambre sous les aisselles, à la taille, aux genoux, etc. Et l'on poudre d'abondance les perruques de 1000 mélanges odorants. Eh bien, cher bien-aimé, j'ose vous le dire, d'ici vendredi, Dieu va nous nettoyer la tête. Et c'est important. Et c'est important. Mettre nos têtes, mettre nos cerveaux sur l'autel, jour après jour. Ne pas faire, et certains d'entre vous ont déjà entendu cette histoire de mes lèvres, je me répète, mais elle est si belle. C'est l'histoire de la petite Anne, danseuse en puissance, peut-être futur petit rat de l'opéra, qui est sur la banquette arrière d'une voiture que conduit son cher papa. Et elle s'entraîne debout sur la banquette arrière à faire ses petits pas, ce qui n'est pas sans déplaire à son papa qui voit le spectacle dans le rétroviseur, jusqu'à ce que finalement ils disent gentiment à Anne, « Anne, s'il te plaît, assieds-toi. C'est dangereux ce que tu fais. Si je viens à freiner subitement, tu t'imagines ce qui va arriver. » Et Anne, en joyeuse petite fille de notre temps, de continuer gaiement ses entrechats. Alors papa, de commencer à être de plus en plus agacé par l'opiniâtreté d'Anne et de lui dire avec un ton plus fort et plus bas, « Anne, tu vas t'asseoir immédiatement. » Mais Anne continue. Jusqu'à ce que finalement, papa étant vraiment très très vexé dans son autorité, explose. Si tu ne te couches pas sur la banquette immédiatement, j'arrête la voiture et tu sais ce que vont devenir tes petites fesses. Anne prend la position horizontale et papa peut appuyer sur l'accélérateur avec bonheur. Il a retrouvé son autorité un moment bafouée. Il sifflote en avançant sur la route, lorsqu'au bout de quelques minutes, une petite tête apparaît visible dans le rétroviseur parce qu'elle s'est placée entre les deux sièges avant. Et une petite voix sort de la bouche de cette petite tête. « Papa chéri !»«
Oui, Anne ?»«
Papa chéri, j'aimerais te dire quelque chose. »«
Ben vas-y, Anne !»«
Oh, papa chéri, je n'ose pas. »« Mais vas-y, Anne !»« Papa chéri, dans ma tête, je suis toujours debout !» Voyez-vous, il existe une consécration qui néglige cette noble partie de notre individu, tout ce qui se passe dans nos têtes. Et c'est cela, ce qui va beaucoup nous occuper déjà cet après-midi et dans nos études à venir. N'oublions pas de mettre nos têtes sur l'autel, jour après jour, puisque c'est un ancien rabbin, mes bien-aimés, qui écrit. Ce rabbin, devenu Paul, Saul de Tarse, qui connaissait peut-être l'Ancien Testament par cœur, et qui a d'ailleurs construit toute l'Épître aux Romains en s'inspirant directement de la structure des premiers chapitres du livre du Lévitique. Mais simplement, il a renversé l'ordre. En commençant par les sacrifices de culpabilité, d'expiation à travers la croix, pour aboutir finalement dans Romains 12 à l'Holocauste. C'est-à-dire ce sacrifice de l'animal mis tout entier sur l'autel, et Lévitique 1 insiste en disant à trois reprises que la tête devait être mise sur l'autel. Tout devait être brûlé et la fumée devait en monter vers le Seigneur d'une agréable odeur parce que tout était donné. Nous nous arrêtons là, dans cette première étude, en te disant, Seigneur, merci pour cette épître aux Romains. Nous te bénissons, elle a tant d'âge, elle a traversé des siècles et des siècles, et elle nous apparaît tellement actuelle pour nos besoins d'aujourd'hui et de maintenant. Seigneur, que durant cette semaine, tu aies la pleine liberté pour travailler dans nos têtes, travailler dans nos cœurs, pour transformer nos mentalités, pour que de plus en plus nous pensions comme tu veux que nous pensions. Merci de ce que pour ce programme, nous soyons assurés de ta mobilisation complète, du travail du Saint-Esprit, des prières de ton Fils bien-aimé, de toute la mobilisation de ta grâce, parce que tu veux accomplir tes bienveillants desseins dans chacune de nos vies, ici-bas. Merci donc au notre Dieu, en Jésus-Christ, et grâce au ministère du Saint-Esprit. Amen.